au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Canal Académie dont l'une des missions et dont l'un des plaisirs aussi est de rendre compte des ouvrages rédigés par les académiciens. Et dans cette émission, c'est l'académicien de l'Académie française, Angelo Rinaldi, que j'ai le plaisir de recevoir et qui nous fait l'honneur de venir dans le studio de Canal Académie. Merci, bonjour Monsieur Rinaldi.
Bonjour, merci Madame, merci de votre hospitalité.
Et merci d'être venu après une séance de l'Académie française. Alors, vous venez de publier un roman, je crois que c'est votre 13e, mais peut-être ce chiffre vous portera-t-il bonheur, Résidence des étoiles aux éditions Fayard.
Oui.
Évidemment, un roman, on ne peut pas commencer par en raconter l'intrigue, et surtout pas les vôtres, parce que l'intrigue, finalement, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'atmosphère de ce roman. Et alors, quand on le prend en main, ce que j'ai fait, on voit tout de suite trois choses, si vous me permettez de vous exprimer. Premièrement, c'est un roman qui n'a pas de chapitre. Ça veut dire qu'on le lit du premier mot de la première ligne au dernier mot de la dernière ligne.
Quelques blancs.
Quelques petits blancs, mais pas trop.
Non.
Et il n'y a pas de chapitre. Ensuite, il n'y a pas de dialogue. C'est à peine si on découvre deux, trois tirets comme ça de temps en temps.
Ah si, à la fin, c'est une grande conversation.
Oui, mais c'est vraiment à la fin. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans tout le milieu du livre, dans tout le début du livre. Et puis, donc ça donne une atmosphère très particulière. Et puis, il y a aussi, je crois avoir remarqué, beaucoup plus de phrases très longues que de phrases courtes. Alors, je voulais vous demander, est-ce que c'est la manière habituelle pour vous d'écrire sans chapitre, sans trop de dialogue et avec des phrases très longues, bien construites? Ou est-ce que c'est un style que vous avez adopté pour ce roman-là?
Finalement, on n'adopte rien, on fait ce qu'on peut. Ça se présentait ainsi, je suis allé ainsi. Il y a très peu de choses que l'on puisse gouverner. On ne peut pas gouverner l'impression du lecteur et on ne peut pas gouverner sa propre... Vous allez là où la difficulté ou alors le plaisir vous conduit. C'était ainsi.
Alors, quand vous écrivez, c'est une écriture qui vous vient très facilement, tous les jours, ou c'est une écriture que vous reprenez souvent, que vous raturez beaucoup? Comment est l'écriture chez vous?
J'ai largement dépensé l'argent correspondant à la valoir en frais de dactylographie. Voilà.
Car il faudrait peut-être vous mettre à l'ordinateur.
Non, je me demande, voyez-vous, si ce n'est pas une ruse de l'inconscient. J'ai besoin d'écrire à la main. Je pense que si je passais directement à la machine qu'autrefois et à l'ordinateur, je serais beaucoup trop indulgent à l'égard de moi-même. Et puis, de toute façon, j'ai besoin du contact de la plume
sur le papier.
Sur le papier, oui.
Et quand vous étiez journaliste, car vous avez longtemps été un grand journaliste à l'Express et au Figaro littéraire, est-ce que vous écriviez aussi toujours à la main, au papier?
L'écriture, c'est comme la République, ça ne se divise pas. Il n'y a pas de genre mineur quand on écrit.
Quand on écrit.
Il n'y a que des difficultés perpétuelles.
Alors, d'où viennent ces difficultés, justement
Je crois que toute personne raisonnable les éprouve, non?
Le français n'est pas une langue facile.
Si on respecte la grammaire, la syntaxe, tout est difficile.
On dit que vous êtes très attaché à la pureté de la langue, c'est vrai? Vous acceptez cette remarque?
Écoutez, cette remarque est flatteuse, je ne sais pas si elle se justifie, mais pour moi, la précision n'est jamais assez grande.
Dans votre livre, on a aussi l'impression qu'il y a un rapport au temps très particulier, parce qu'on ne sait pas si on est dans le présent, dans le passé, dans les souvenirs. On a l'impression que c'est un temps qui s'écoule de manière très enfermée, comme cela. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. Quel est le rapport au temps que vous avez mis avec votre héros?
Écoutez, rapport au temps, tout ça fait un peu grandiloquent. En réalité, c'est un monsieur qui débarque sur une place du 17e arrondissement, en partie, largement en partie imaginaire, j'aime pas être prisonnier des lieux, et qui revoit dans une impasse, va redécouvrir dans une impasse ce qui ne s'y trouvait pas lorsqu'il y a vécu lui-même, dans un temps de jeunesse, c'est une maison. Une maison qui est un mouroir pour riches, tout résidence des étoiles, ce qui n'est pas sans ironie, étant d'ailleurs par contraste avec la réalité, et qui retrouve sur les lieux, après avoir rencontré un clochard sur le trottoir, et qui retrouve sur les lieux le dernier témoin de ce temps qu'il y passa comme locataire dans une relative jeunesse, ce qui lui revient pour lui à se souvenir, bien sûr, de son enfance, mais à se rappeler l'étrange bestiaire qui peuplait cet immeuble au bout de l'impasse. Impasse étant un mot vraiment à entendre dans tous les sens du terme.
Voilà,
alors il retrouve une dame qui est assez, je crois, assez pittoresque.
Très pittoresque, comme d'ailleurs chacun de vos personnages. Il y a une foison de personnages aussi, oui, tout de même. Il y en a beaucoup, beaucoup.
J'ai une faiblesse pour les personnages. Et je crois qu'elle incarne un certain type de parisienne.
Voilà, alors on va reprendre les personnages un petit peu plus en détail, parce que c'est tout de même très intéressant. Le héros, qui donne donc le fil conducteur du livre, c'est Marc-Antoine. Et alors, dès le début, dès les premières pages, et les premières pages d'un roman, c'est ce qui donne envie de rester ou de partir, elles sont quand même extrêmement fortes et même un peu choquantes.
Très choquantes.
Alors, je vous l'avoue, j'ai été quand même un peu choquée, parce que ce jeune homme se souvient que quand il a appris la mort de son père, il a été soulagé. Ouf, le voilà mort. Donc déjà, Angelo Rinaldi, j'avais envie de vous demander de lire le tout début de votre roman, parce que vraiment, ça vaut la peine.
Écoutez, je vais lire
ça. Feriez ça pour nous faire plaisir.
Cette phrase qui pour vous fut choquante. Quelle joie ce fut pour lui le jour de la mort de son père. Quelle soudaine impression d'un élargissement de l'univers, mais aussi, quelle crainte d'être deviné. Mais pourquoi se le rappeler à ce moment de la vie où toutes ambitions repliées comme les ailes des poules sur leur perchoir à l'approche de la nuit, on exclurait également de s'engager dans une liaison avec l'espoir d'une réciprocité des sentiments, si l'on se prêtait encore au physique quelques arguments pour séduire. Avait-il 9 ou 10 ans? La joie qu'il avait alors secouée aussi fort que l'orgasme d'un adulte jaillissait du tréfonds à la seconde où les vitres baissées en raison de la chaleur d'un été sans fin parvenaient à l'arrière du taxi avec l'intensité du grondement d'un chien que l'on entend dans son dos et qui fait sursauter, la rébellion du feuillage à la cime des marronniers des 3 petits squares morcelant cette place du 17e arrondissement, aussi tranquille toute l'année qu'un quartier de Versailles le dimanche. Voilà, donc nous sommes, il arrive. Mais puis-je vous faire observer que secrètement, tout petit garçon, à un moment donné de sa vie, je crois que c'est entre la 7e et la 10e année, souhaite secrètement, peut-être un peu plus tôt, la mort de son père, qui est le rival dans l'affection de sa mère. Alors, je ne crois je ne crois pas que d'un point de vue freudien, ce soit si scandaleux.
C'est-à-dire, c'est peut-être pas scandaleux, c'est quand même inhabituel de l'avouer.
Mais je crois que nous l'avions. Je crois que ce sujet n'a jamais été traité. Je me rappelle, il y a 3 mois et demi, d'avoir été saisi d'un remords. Et je disais à mon éditeur, qui est aussi un écrivain, Claude Durand, je dis, mais est-ce que la joie de la mort du père, est-ce que Alberto Moravia ne l'a pas traité dans Agostino? Alors nous avons cherché dans tout Paris s'il y avait en format de poche, et à mon grand soulagement, il ne s'agit pas de ça chez Agostino. Tous les troubles de l'adolescence chez l'Italien sont analysés, mais pas celui-là. Alors j'étais assez soulagé.
Donc, vous voyez, donc j'étais, moi, soulagée de savoir qu'on pouvait être surpris en lisant cette... Mais en même temps, évidemment, on comprend.
Oui, l'incipit est fait un peu à dessein.
C'est fait exprès. Alors, dans les personnages, il arrive assez tôt dans le roman. C'est un extraordinaire médecin aussi, Moratti, il s'appelle. Oui. Il est tout à fait inouï aussi, celui-ci. On n'a pas très envie de tomber entre ses mains, ce docteur. Mais en même temps, il est bon docteur, mais il est quand même curieux.
C'est un bon docteur. Je crois que de tous les personnages, c'est l'homme le plus libre. Bon, c'est un médecin un peu raté au sens social du terme. ce qui est autre chose que le succès véritable. Un peu ivrogne, c'est un médecin de province.
Qui a son franc-parler aussi.
Qui a son franc-parler, un pessimisme allègre, qui n'hésite pas à une période pas si lointaine que cela à pratiquer lui-même des IVG. Et c'est un personnage très, très libre, qui vit à la campagne. On ne sait pas pourquoi il s'est réfugié à la campagne, par l'horreur de la ville, et pour la proximité des étangs qui lui est cher.
C'est ça qui est très...
qui se tue, enfin, d'une certaine manière, oui, par l'alcool, comme nous le voyons très souvent chez les gens qui ont cette faiblesse-là. Et cette faiblesse, ou en tout cas, qui n'ont que ce moyen-là pour se défendre de l'angoisse. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que c'est...
Je l'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, j'ai aimé tous les personnages parce que, justement, je trouve que vos personnages, à la fois, vous les décrivez avec une minutie, des détails, des éléments pittoresques extraordinairement nombreux, et en même temps, ils gardent toute une part de mystère. On ne sait jamais véritablement qui ils sont.
Ah bah, j'évite de le dire. Pourquoi a-t-il échoué dans ce coin de...
Voilà, c'est ça, on ne sait pas. Alors, le clochard dont vous parliez, c'est-à-dire ce mendiant, Gunther, il s'appelle.
Oui.
Alors, lui, c'est un autre genre.
Je sais que des clochards, j'en vois à Paris, et que... Où la misère, quelquefois, l'hiver, est assez insupportable, tant il y a de SDF, comme on dit aujourd'hui. Pour moi, c'est presque une figure christique, d'une certaine manière. Comment cet homme, cet Allemand, et il y a beaucoup d'Allemands parmi les SDF, beaucoup de gens de l'Est aussi, qui viennent en France, finissent terrés, hein, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin avant la mairie. Qu'y attend-il ? Il attend. Je ne sais pas qui l'attend, quelle personne, une personne de quel sexe. Je fais en sorte de ne pas le...
Voilà, il garde aussi sa part de mystère.
Voilà, d'une formidable naïveté qui fait qu'il pense que 20 ans après, il peut revoir une personne dont les sentiments n'auront pas changé à son égard.
Oui, c'est une naïveté, en effet, touchante.
Une naïveté, voilà. Il s'est imposé à moi, je ne sais pas pourquoi, mais lui aussi... peut-être une figure emblématique de ce que j'ai si souvent vu à Paris.
Alors, il y a aussi ce personnage qui, évidemment, occupe une place très importante. C'est la gardienne concierge, Madame Laribaud.
Directrice, héritière.
Oui, oui, riche par certains côtés.
Devenue riche par un héritage, dont je laisse comprendre quelle a été la nature. Et là aussi, j'essaye de ne pas trop insister sur les relations qu'elle avait avec cette femme qu'on appelle Jacqueline.
Qui était propriétaire,
des immeubles, une grande bourgeoise du 17e. Parce que je me dis que le lecteur peut comprendre. Oui. Je pense toujours, je suis toujours partisan, jusqu'à présent en tout cas, de l'euphémisme et de la suggestion parce que je me dis qu'un lecteur est aussi intelligent que moi et souvent bien plus. Et qui n'a pas besoin qu'on lui mette le point sur les i.
D'autant que finalement, vous pensez qu'on ne sait jamais tout d'un être.
D'abord, on ne sait jamais. Le misérable petit tas de secrets dont parlait Malraux. On sait peut-être. Et puis, d'un personnage, on n'a pas intérêt à le vider et de le réduire à une fiche anthropométrique comme à la préfecture de police. Il faut que le lecteur
a sa place dans sa création de personnage.
Exactement, vous le dites très bien, madame. Un roman, c'est comme l'amour, ça se fait à deux. Enfin, en général, et pour le plus agréable. Donc, on donne quelque chose et puis l'autre...
Complète.
L'autre complète. Enfin, c'est comme ça que
vous concevez la relation auteur-lecteur.
Auteur-lecteur.
Une jolie relation.
Ne pas trop le dire, à moins que, bon, qu'il y ait un accident, une description d'un accident dans la rue exige une autre précision. Mais il vaut mieux suggérer. D'ailleurs, le lecteur comprend très bien.
Oui, en tout cas, dans votre roman, dans celui-ci, Résidence des étoiles, le pouvoir de suggestion est très fort. Par contre, j'ai noté aussi que Résidence des étoiles, il faut attendre la page 127 de votre livre pour voir le mot apparaître la première fois. Ça veut dire qu'on a lu 126 pages où vous ne parlez pas de cette résidence parce que le héros ne l'a pas encore...
Il n'y est pas encore allé.
Véritablement rencontré. Alors, vous dites que c'est une sorte de mouroir, oui, mais en même temps... C'est vrai que c'est très triste, mais y a-t-il des maisons pour personnes âgées qui ne soient pas tristes? On finit par se demander, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais enfin, ça, c'était une résidence pour personnes très riches.
Et alors, vous la décrivez, cette résidence par imagination ou vous l'avez...
Je la décris de l'extérieur.
De l'extérieur.
Il y a un infirmier qui promène une pensionnaire, qui n'est pas particulièrement pauvre, et qui donne des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur, sur un autre pensionnaire qui s'est probablement suicidé, enfin sur... je donne des renseignements par petites touches.
Oui, c'est votre manière de faire.
Oui.
Alors peut-être me corrigerez-vous si je vous dis que j'ai cru repérer un thème qui file le long des pages, qui est celui de la jeunesse et par conséquent celui de la fuite de la jeunesse. Mais... parce que j'y ai vu par exemple une phrase, page 94, « La jeunesse, c'est peut-être avant tout une odeur. » On pourrait en dire autant de la vieillesse d'ailleurs.
Oui.
Et une autre phrase, « La jeunesse aussi avait un goût de miel et de sarrasin. » Ce sont des jolies phrases. Est-ce que le thème de la jeunesse et de la perte de la jeunesse, c'est un thème qui vous préoccupe plus aujourd'hui qu'autrefois?
Non, je crois que là, c'est presque un lieu commun. Il fallait tout de même préciser la psychologie de ce personnage. Il ne pouvait pas échapper non plus à mon gré entre 40 et 50 ans. Il ne pouvait
c'est pas
quand
encore
même...
très vieux, oui.
Non, mais...
Il n'est pas soumis à la
oui, mais
jeunesse qui s'en va.
C'est quand même... Se rappelant son passé, il est bien obligé de se dire que la moitié du parcours est accomplie.
Alors pourquoi veut-il se rappeler son passé, justement? Est-ce que vous voulez
C'est un truc de romancier. Bien obligé de se souvenir, puisque par accident encore, parce qu'il a eu une peur bleue, c'est de se ranger son chirurgien. Et là encore, je ne dis pas pourquoi. Et s'arrêtant là, il découvre qu'il y a habité. Il est difficile de gommer le fait qu'il y ait eu 20 ou 30 ans dans ce lieu.
Est-ce que vous croyez vous-même que les lieux portent une mémoire? C'est-à-dire que quand vous y allez, ça vous ressaute au visage,
ah,
ça
oui.
vous ressaute dans la mémoire.
Et d'ailleurs, très curieusement, quand on a aimé certains lieux, je pense à certains lieux de l'enfance, on s'aperçoit quand on y retourne, ce qui n'a pas encore été mon cas, qu'on y retourne, c'est un rapetissement des choses.
Les choses sont plus petites ou plus grandes?
Plus petites, un peu comme les actrices que l'on rencontre par hasard dans la rue ou au cinéma. On disait, ah, je la croyais plus grande.
Ah oui, c'est vrai.
Ce qui m'était arrivé une fois, d'une façon un peu étrange, à Londres. Et j'ai reconnu, et une journaliste camarade me l'avait confirmé, Ava Gardner.
Magnifique femme. Elle n'était pas grande?
Elle était moins grande que dans
films,
ce que
j'imaginais
d'elle. Oui, oui, assez immense. Elle était là du côté de Kensington Street. Et j'en pensais immense. Femme grande, mais enfin, c'était... Notre souvenir a grandi les choses.
Sans doute. Angelo Rinaldi, qu'aimeriez-vous dire encore pour votre roman « Résidence des étoiles » avant que nous terminions cette émission?
Que peut dire un auteur qui a travaillé pendant des années, sinon qu'il s'est finalement, et d'une façon extrêmement enfantine, que vous diront tous les auteurs, attaché aux personnages, qu'il s'est abstenu de les juger, d'ailleurs, il n'y a pas de jugement,
il y a pas de jugement moral, non.
Et que cet attachement et cette absence de jugement moral, si une lectrice ou un lecteur pouvait l'avoir, ben je serais très heureux.
Est-ce que ces personnages, ils vous habitaient depuis longtemps? Vous dites que vous avez mis plusieurs années à écrire ce roman.
Oh, vous savez, ils me sont venus un peu comme certains clochers d'Alsace ou d'Allemagne en face sortent les personnages qui sonnent l'heure. Je les avais en gros dès le départ. Et puis, comme l'infirmier, par exemple, et qui m'a d'ailleurs beaucoup amusé, parce qu'on peut aussi s'amuser à en écrire, quand on est sûr qu'on ira jusqu'au bout, me sont venus en chemin, mais les autres sont sortis du bœuf froid. Bon, est-ce qu'il sonnait midi, est-ce qu'il sonnait minuit? Je n'en sais rien.
Merci Angelo Rinaldi. En tout cas, je crois pouvoir dire, pour mon compte personnel, que vos personnages, on ne les oublie pas quand on les a lus, parce qu'ils sont extrêmement forts, extrêmement puissants, émouvants et attachants. Donc, je ne crois pas qu'on va les oublier facilement. Résidence des étoiles, c'est le roman de Angelo Rinaldi de l'Académie française et c'est paru chez Fayard.
Merci, madame.
Merci.